Nos vies changent, nos vies bougent. Chaque soir, France Culture suit les mouvements de notre société. Lundi, Louise Tourret.
Quand la culture nous sauve.
France Culture, être et savoir, Louise Tourret.
L'éducation à la tolérance et à l'esprit critique est devenue un sujet prioritaire depuis les attentats de 2015. On en a évidemment beaucoup reparlé après l'assassinat de Samuel Paty. L'enseignement artistique et la culture sont essentiels de ce point de vue, mais ils sont relativement peu mis en avant. Alors ce soir, nous allons expliquer pourquoi ils sont très importants. On va particulièrement l'expliquer avec le psychologue et spécialiste du cerveau, Olivier Houdet. Et puis si l'épidémie de Covid-19 a rendu nos existences moins gaies et plus difficiles, comme le montrent les enquêtes qui s'accumulent sur la santé psychique des Français, que l'on parle des adultes ou des enfants, c'est aussi parce que la culture nous manque, dans sa dimension collective du moins. Mais en quoi l'art peut nous aider dans les moments compliqués? En quoi est-il une réponse à l'isolement? Le chercheur en sciences de l'éducation Gilles Boudinet réfléchit pour nous à cette question en deuxième partie d'émission. Il nous expliquera aussi quel dialogue peut s'engager entre culture juvénile et culture scolaire et pourquoi l'émerveillement est un point d'entrée vers l'esprit critique. Mais d'abord, et nous allons commencer l'émission par cela, le rapport à l'art et à la culture au sens le plus large est aussi une question éducative en ceci qu'il se construit et de mille manières dans l'enfance et surtout l'adolescence, âge où se dessinent des pratiques et des goûts pour la vie. Et c'est avec Riyad Satouf que nous allons en parler parce que son rapport à la musique, au BD, au mythe et au roman est raconté avec beaucoup de justesse et de sensibilité dans le dernier opus d'une bande dessinée qu'on aime énormément et qui rencontre un immense succès, l'Arabe du futur. Bonjour Riyad Satouf.
Bonsoir.
Oui, je dis bonjour, mais c'est bonsoir, il est 21h02. Vous êtes réalisateur, auteur et illustrateur de bandes dessinées, notamment donc l'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient, qui vient de sortir chez Alary, c'est le 5e tome. Vous êtes également l'auteur des Cahiers d'Esther, vous êtes déjà venu nous en parler ici. Et on retrouve actuellement vos dessins pour la liberté de la presse dans le cahier annuel des reporters, de Reporters sans frontières, pardon. Il est disponible chez les marchands de journaux. Je dois ajouter qu'on voit les yeux d'Esther en ce moment sur l'affiche du Salon du Livre Jeunesse de Saint-Denis. Il s'ouvre mercredi, donc le 2 décembre, avec de nombreux volets virtuels. Vous savez qu'on aime beaucoup parler de la lecture dans l'émission. Et on tient à dire que les bibliothèques sont ouvertes depuis le 28 et que donc une partie du Salon du Livre Jeunesse de Saint-Denis sera en différé dans des bibliothèques partenaire. Il y a aussi un volet exposition à Montreuil. On retrouve tout ça sur le site du Salon. Olivier Houdet, bonjour.
Bonsoir.
Et j'ai redit bonjour. Vous êtes spécialiste du développement cognitif, des apprentissages du cerveau des enfants professeur à l'Université de Paris, membre de l'Académie des sciences morales et politiques à l'Institut de France. Vous êtes auteur en particulier de L'école du cerveau chez Mardaga en 2018 et Apprendre à résister pour l'école contre la terreur, publié aux éditions du Pommier. Mais j'ai commencé avec Riyad Satouf. Vous êtes, à mes yeux, Riyad, un chroniqueur de l'enfance et de l'adolescence. Alors, c'est au présent avec Esther et puis au passé, votre passé avec l'Arabe du futur qui est à la fois une histoire très personnelle et puis un récit où résonnent, à mon sens, de nombreuses références de ce qui nous a construit en tant qu'adolescent, puisque je suis de la même génération que vous, mais je pense que ça peut parler à toutes les générations. L'adolescence, c'est un âge d'émancipation culturelle. C'est l'âge où se sont formés vos goûts personnels, vos goûts, par exemple, musicaux, mais aussi vos goûts en matière de lecture. Vous tenez à raconter ça dans cette histoire qui est d'abord l'histoire de votre famille, mais c'est très présent dans la BD.
Oui, c'est vrai que j'ai voulu, dans ce volume-là, aborder ce thème-là et ces questions-là, parce que, comme l'Arabe du futur aussi raconte donc l'histoire d'une double culture, voilà, par mon père, j'étais syrien, issu de culture musulmane, paysanne, traditionnelle, et par ma mère, donc plutôt breton, français, c'était très compliqué pour moi d'unifier ces deux cultures, d'en faire une synthèse et de m'y trouver une identité, en fait. Et donc c'est vrai que très très vite, déjà par le fait que j'étais très sensible à la bande dessinée, au dessin, et que j'aimais beaucoup dessiner, etc., je me suis vraiment choisi cette identité entre guillemets d'auteur ou de créateur. Même très très jeune, j'avais déjà un ego surdimensionné à 14 ans. J'étais persuadé que j'étais de la trempe des écrivains, des dessinateurs que j'admirais, etc. Et je me suis choisi ça un petit peu pour me sauver moi-même de l'impossibilité de faire cette synthèse. Donc c'est vrai que la culture et l'expression artistique, même si j'étais pas spécialement talentueux, j'étais pas virtuose, j'avais aucune culture artistique, mais la présence de cette possibilité-là dans ma vie m'a, je crois, permis vraiment une grande émancipation.
Une émancipation par la culture juvénile de l'époque. Alors, je vais tenter un truc, hein. Je vais lire un extrait de la bande dessinée. On est page 106 et vous constatez que la plupart des élèves dans le coup affichent leurs goûts musicaux sur leurs t-shirts et vous avez décidé de faire pareil. Devenu fan de Nirvana, je réalisais, dites-vous, que Grégory copiait le look de Kurt Cobain. Il s'était laissé pousser les cheveux et avait presque la même coiffure. Je décidais moi aussi de ressembler à Kurt. Il suffisait de me laisser pousser les cheveux et que je m'achète une chemise à carreaux. Et là-dessus, vous croisez Anaïk, qui est un personnage très important dans cet épisode, qui vous demande ce que vous écoutez. Nirvana, tu connais ? Ah oui, je connais pas bien, il paraît que c'est génial. Je savais pas que tu écoutais ce genre de musique, fais écouter. Elle prend un air interrogatif et elle vous fait écouter sa musique. Supreme NTM, tu connais ? Non, c'est quoi ? Du gros Peura ? Peura ? Du rap ? C'est vachement engagé. J'adore leur voix, ça me fait un truc physique. Ça veut dire quoi, NTM ? Nique ta mère. Voilà pour cet extrait qui montre une confrontation de goûts différents, qui est toujours une forme de test, hein, entre les ados. T'écoutes quoi comme musique ? C'est la sociabilité de l'époque. Échanger sur ses goûts musicaux avec les filles, on voit que c'est parfois très compliqué. Riyad Satouf.
Bah, c'est en fait, disons qu'il y avait deux aspects dans cette culture, c'est que j'avais mes propres goûts personnels, mais qui étaient aussi des goûts de, j'avais envie d'exprimer des choses, donc je faisais des bandes dessinées déjà à cette époque-là, je faisais des dessins, je me voyais comme un dessinateur, mais je me rendais bien compte que c'était pas suffisant face au groupe des autres pour être reconnu comme quelqu'un de potentiellement valable. Je me rendais bien compte que la majeure partie des élèves n'étaient pas, entre guillemets, créatifs. Il y en avait très très peu qui faisaient de la musique, il y en avait très très peu qui faisaient du dessin ou qui s'exprimaient en écrivant des choses, etc. Mais ils avaient tous l'apparence d'être nimbés de culture par leur goût, en fait, qui montrait aux autres. Et donc c'est vrai que j'essayais un petit peu de faire pareil, mais c'était plus par envie d'intégrer le groupe que par véritable sincérité, quoi.
Oui, on sent que vous n'êtes pas très sincère dans votre intérêt pour le rap à ce moment-là, hein, de votre vie. Vers quelle musique vous vous êtes tourné à l'adolescence ? Enfin, je crois le savoir, mais et pourquoi est-ce que vous aimez toujours ? Pourquoi est-ce que vous êtes fidèle à vos goûts d'ado ?
Non, mais alors je suis fidèle à beaucoup de goûts de ma jeunesse, en fait, pas seulement d'adolescence, mais c'est vrai que quand on les premières lectures, les premiers chocs musicaux, les premières découvertes qui nous font des effets sensibles, on y reste quand même très très attaché. Alors c'est pas forcément des choses extrêmement de grande qualité, etc. Mais j'avoue que par exemple quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de hard rock, de métal, etc. Et j'ai gardé beaucoup d'affection pour ce style musical parce que ça me semblait être quelque chose de totalement cathartique, en fait. Et aujourd'hui, bien sûr, je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de choses très ridicules, que c'est pas toujours extraordinaire, que c'est un peu toujours la même chose, ou que même les paroles sont quand même vraiment incroyablement ringardes. Mais dans la capacité que ces œuvres artistiques, cette musique, la capacité que ça pouvait avoir de toucher des adolescents ou des jeunes comme moi qui étaient difficilement touchables entre guillemets, j'avoue que j'en ai gardé beaucoup de tendresse pour ça.
Olivier Houdet, sur cette autonomisation, du goût, ça intervient après une certaine maturité, peut-être à la préadolescence, à l'adolescence. Ça correspond à quelque chose dans l'évolution de l'enfant et de son cerveau.
Le sentiment du beau et le goût vient beaucoup plus tôt déjà. Le bébé, le très jeune enfant, ressent en quelque sorte la beauté, l'esthétique du monde. Ce qui survient à l'adolescence, c'est ce qu'a très bien décrit Riyad, c'est l'envie de se forger une personnalité et de la faire voir aux autres. Et dans tout ce que vous avez raconté tous les deux à l'instant, cela me faisait penser à une citation d'un grand psychologue du développement de l'enfant et de l'adolescence, Jean Piaget, qui disait qu'à partir de l'adolescence, dans le cerveau humain, le réel devient un cas particulier du possible. Alors qu'avant, c'est l'inverse. C'est ce qui est possible qui est dans le réel. Et le réel est un cas particulier du possible. Ça veut dire qu'on peut imaginer les choses différemment. Le cerveau peut émettre des hypothèses, qu'elles soient artistiques ou qu'elles soient scientifiques ou même politiques. C'est le début des idéologies à l'adolescence.
Idéologies qui font partie aussi de l'émancipation. Et là, on parle de l'art et je m'exprimerai pas sur les idéologies pour cette question que je vais poser pour l'art qui nous sauve. Si j'ai choisi de le dire dans cette émission, c'est parce que vous le formulez, Riyad Satouf, vous dites que grâce à l'art, on peut surmonter à peu près tout. Et quand vous le dites, ça paraît être une phrase très forte par rapport à ce que vous traversez dans cette bande dessinée, cette série, par rapport à vos parents, par rapport à le fait que votre père vous ait privé d'un de vos frères.
Oui, mais alors c'est vrai que quand on parle de l'art, ça peut peut-être paraître parfois un peu pompeux parce que c'est art avec un grand A, etc. Mais moi je me rappelle quand j'étais adolescent, le simple fait de pouvoir m'enfermer moi-même dans mon propre univers, dans mon propre monde, à imaginer d'autres mondes, à être capable de dessiner des personnages, des villes surréalistes, des paysages étranges, etc. C'était vraiment une manière, je me rappelle que je sortais de ces périodes de dessin qui étaient un peu comme des sortes d'auto-hypnose, complètement soulagé d'avoir pu quitter le réel d'une certaine façon. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de concret. Quand j'allais au collège, j'étais pressé de pouvoir retourner chez moi, me remettre à ma table et réimaginer toutes ces choses-là, parce que j'avais l'impression de changer de dimension, en fait. Et c'était un vrai effet physique, c'était pas uniquement j'en sortais complètement apaisé, complètement... Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu voir chez beaucoup de jeunes qui viennent me montrer leurs dessins, ou chez beaucoup d'enfants que je connais, c'est qu'il y a quand même cette notion d'apaisement dans le fait de pratiquer une activité artistique. Alors je sais pas, voilà, moi c'est en tout cas je sais que c'était comme ça pour moi.
Est-ce que vous faisiez le rapport avec l'art et l'éducation artistique qui vous était prodiguée à l'école? On sait que vous rendez hommage à votre professeur de dessin, qui est quelqu'un de très très important dans votre vie, mais par rapport à la littérature qu'on peut fréquenter à l'école, ou même à la musique, parce qu'on fait de la musique aussi au collège, est-ce que là il y avait une relation avec la dimension artistique de la vie dans votre scolarité?
Oui, certainement, mais alors elle était un petit peu comme à peu près tous les ados, c'est-à-dire que souvent quand les livres qu'on étudiait en cours, Émile Zola, etc., souvent je les trouvais ennuyeux, j'avais pas forcément envie de les lire en entier. Quand on me proposait un livre d'un grand auteur français, immédiatement j'allais chercher d'autres livres d'auteurs américains, fantastiques, de science-fiction, etc., pour me forger un goût et me dire, ah, mais moi c'est ça que j'aimerais étudier en cours et pas ces trucs casse-pieds de Zola et compagnie. Mais sauf que c'est toutes ces choses-là, je les ai gardées en moi et je les ai redécouvertes plus tard et j'ai appris à les aimer. Mais le fait que je pouvais me construire aussi dans mes goûts que ce soit en opposition par rapport à ça, ou c'était, je pense, très 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 important. Par exemple, mes profs de dessin, même cette prof que je décris dans l'Arabe du futur 5, qui est une prof qui était très sympathique et qui a rendu possible en moi le fait d'être dessinateur. Les cours de dessin, les cours d'art plastique, pour moi, ont toujours été un petit peu ennuyeux. J'avais envie de prendre des cours de bande dessinée, d'apprendre à bien dessiner. Enfin, je sais pas, j'avais envie d'autre chose que ce qui était proposé. Mais le fait simplement de se confronter aussi à cette frustration était quelque chose qui faisait progresser, je trouvais.
C'est incroyable, comme vous dites toujours du bien de l'école, et j'ai lu plein d'interviews de vous. Vous rendez toujours hommage à l'école, Riyad Satouf. Il y a quelque chose dans la fréquentation des œuvres d'art et de la culture, pas seulement à l'école, mais dans la vie, qui peut peut-être nous faire avancer. C'est la manière dont elle nous amène à réfléchir, à réviser nos jugements ou à des endroits où on n'aurait pas pensé aller dans son esprit, c'est penser contre soi-même. Et ça, Olivier Houdet, c'est quelque chose dont vous parlez tout le temps dans la plupart de votre livre, y compris ceux que vous destinez aux enfants, parce que vous avez écrit des livres pour les enfants sur le fonctionnement du cerveau. Se méfier des réflexes, l'intelligence, ce serait savoir aussi éviter son premier mouvement et aller plus loin. En quoi l'art nous aide-t-il à cela ?
Ah ben je crois que l'art, c'est qu'on contemple ou que l'on crée, ça combine dans le cerveau trois processus. D'abord, la nouveauté. Il faut qu'il y ait une surprise, il faut qu'il y ait de la nouveauté. Ensuite, un certain équilibre, la cohérence entre les parties et le tout. On le trouve en peinture, on le trouve en musique. Et enfin, la parcimonie, c'est-à-dire exprimer ce que l'on veut de la façon la plus élégante, presque unique. On est sur une crête. Et combiner ces trois processus dans le cerveau exige souvent de se dépasser, d'inhiber ces automatismes. Et en effet, je pense que la vraie pensée, la vraie création, c'est souvent contre soi-même, c'est-à-dire au-delà du fonctionnement automatique du cerveau, aller rechercher des ressources que l'on n'imaginait même pas.
Est-ce que ça fonctionne avec des formes d'art qui ne plaisent pas forcément aux adultes ? Je disais que les adolescents s'éduquaient eux-mêmes, ça peut commencer dès l'enfance, avec des goûts qui sont souvent désapprouvés par les parents. Je pense que là, comme ça, tout de suite, à la musique, par exemple, sur laquelle on aime beaucoup formuler ses désaccords en famille. Est-ce que donc ça fonctionne avec la culture juvénile de votre point de vue, Olivier Houdet ?
Oui, il y a toujours l'esprit de contradiction. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce qu'a dit Riyad tout à l'heure, c'est que malgré la littérature classique, Zola et autres qu'il n'aimait pas, il écoutait quand même, ça lui est resté, ça lui est revenu. Et vous savez, le cerveau de l'enfant construit, grave en quelque sorte, ce qu'on appelle des réseaux neuroculturels. C'est très neuronaux, biologique, mm-hmm. mais imprégné de culture. Et ces réseaux neuroculturels, ils sont vraiment au cœur du cerveau, et notamment dans le cortex préfrontal qui fait la synthèse des œuvres d'art, parfois une synthèse inconsciente qui va mêler raisonnement, émotion et aussi souvenirs. Et ces synthèses neuronales, gravées quelque part dans nos réseaux neuroculturels, nous guident, reviennent au cours de la vie. Et c'est ça qui est important. C'est pas finalement face à quoi on s'expose en contradicteur, comme on peut le faire à l'adolescence. C'est ce que l'on grave peu à peu dans notre cerveau et qui forge notre personnalité culturelle.
Ça veut dire qu'en tant qu'adulte, en tant que parent, par exemple, ce n'est pas inutile d'exposer nos enfants à nos goûts, de laisser tourner France Culture dans la voiture plutôt que de laisser les enfants choisir leur radio, puis aussi de leur montrer nos films, leur faire écouter notre musique et essayer, quand c'est possible, de les inciter à lire des livres qu'on leur recommanderait. Mais ça, c'est très, très compliqué. Olivier Houdet ?
Oui, mais je crois qu'il faut les exposer à ce que l'on croit être beau, ce que l'on aime, mais au sens le plus esthétique du terme. Et vous savez, dans la chronique du Monde la tribune que j'ai écrite sur le beau à l'école, eh bien, je cite l'écrivain Champfleury qui, à la fin du 19e siècle, disait « La plus petite parcelle de beau perçue par l'enfant prédispose à la délicatesse et à la formation du goût ». Et on peut même dire une certaine harmonie qui peut aussi être sociale par rapport au sujet que vous évoquiez tout à l'heure.
Riyad Satouf, c'est quelque chose auquel vous êtes très sensible la présence du beau et du moche dans les différents milieux dans lesquels vous baignez enfant et que vous restituez. C'est aussi très présent dans vos films et je pense particulièrement à la présence du moche. Ça peut être le moche du collège, de la ville, du village en Syrie.
Oui, alors c'est vrai que c'est très intéressant ce que dit Monsieur Oudé, parce que c'est vrai que je me rends compte que il dirait que le beau, en fait, en tout cas ce qu'on considère nous-mêmes comme beau en tant qu'individu, etc. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Alors ça, c'est pas forcément partagé par d'autres, etc. Mais il est vrai qu'il y a eu des moments. Je me rappelle quand j'étais enfant où j'ai pu voir des tableaux très très beaux. J'ai pu voir des dessins de. Je pense notamment. Je me rappelle la première fois que j'ai ouvert une bande dessinée de Philippe Dorillet, par exemple. Alors c'était une sorte de dessin complètement fourmillant dans tous les sens. En fait, je n'avais jamais vu quelque chose d'équivalent. Je pensais pas qu'il était possible de faire des choses comme ça. Je pensais pas que j'avais l'autorisation de dessiner ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui me marque encore aujourd'hui. Je me dis tout le temps, il existe quelque chose que je n'ai pas encore vu, que je n'ai pas encore fait, que je pourrais faire, et comme ces différentes surprises qui ont pu arriver. Alors c'est pour ça que, moi personnellement, je suis pas du tout d'un milieu culturel élevé. Toutes les découvertes que j'ai pu faire d'un point de vue culturel, je les ai faites un petit peu par hasard ou seul ou sur les conseils de copains. Mais c'est vrai que avoir accès à quelque chose de nouveau et que vous n'avez jamais vu et qui vous touche, même si c'est pas quelque chose d'une grande œuvre, c'est vrai que c'est essentiel pour la suite, parce qu'on n'oublie jamais ces sentiments-là, ces sensations-là.
Et ça compte énormément les amis dans cette adolescence des années 90 où finalement l'offre est très différente de celle d'aujourd'hui, puisque si on pouvait, et on peut toujours se rendre à la bibliothèque, se prêter des livres, il manquait quand même Internet. Comment vous voyez l'évolution de l'influence qu'on peut s'exercer les uns sur les autres avec les réseaux sociaux, et vous y êtes présent, hein, et la manière dont peuvent circuler les objets culturels comme la BD dans ces univers-là, Riyad Satouf?
Bah, c'est vrai que c'est compliqué. Alors moi, j'avoue que je lis quand même beaucoup de livres, mais je suis quand même drogué à Internet aussi. Comme j'ai un compte Instagram, etc. J'ai un compte Twitter, j'ai un compte Facebook, etc. Et je me rends compte. Il y a beaucoup de liberté, mais je me rends compte aussi que, par exemple, avec mon compte Instagram, je suis abonné à de très nombreux comptes artistiques. Des comptes de musées tout autour du monde, des comptes sur la paléontologie, sur l'architecture ancienne, etc. Et en fait, on a un défilé d'images, mais qui sont aussi très belles. C'est-à-dire, je vois des choses souvent sur mon téléphone que je verrais pas forcément en allant 10 fois dans une bibliothèque. Je pourrais me concentrer sur un sujet ou en lisant un livre, je resterais sur un. Là, on a accès quand même à beaucoup de choses. Après, il faut savoir quoi choisir et quoi. Est-ce que ça a une vraie importance, un vrai sens? J'arrive pas tellement à ça, parce que c'est très, tellement, tellement large. Moi, la jeune Esther, dont je m'inspire pour faire mes bandes dessinées, elle regarde des trucs complètement. Elle regarde des rappeurs qui se guirlandent dans des studios pendant des heures avec des chanteuses. Enfin, c'est autre chose que ça. Il y a énormément de liberté, mais je crois qu'il en reste quand même toujours quelque chose.
Mais c'est comme un trou dans lequel on peut tomber et dont on ne voit pas bien le fond, à moins d'arriver à éteindre son téléphone. Vous parliez d'Esther, alors maintenant, voilà, elle est grande, on a pu lire l'histoire de ses 14 ans. On va revenir à ses 10 ans, quand elle voulait être éditrice et pourquoi pas critique littéraire, en tout cas elle parle des livres.
« Je m'appelle Esther et j'ai 10 ans. J'habite à Paris avec mes parents. En fait, j'aime mon père, mais c'est un homme très sévère qui refuse que j'ai un smartphone et qui veut pas que je regarde la télé. Par contre, il veut bien que je lise des livres. En fait, si j'en ai fini un, j'ai le droit d'en avoir un autre tout de suite, même si c'est pas Noël ou mon anniversaire, par exemple. On va avec mon père dans une librairie où il y a plein de choix et je peux prendre le livre que je veux. Maintenant, je sais pas si c'est de la faute des libraires qui choisissent mal les livres ou des écrivains qui écrivent vraiment mal, mais je trouve qu'il y a beaucoup de livres carrément nuls, chiants, pas intéressants, qui font pas du tout envie. Alors, j'y réfléchis et voilà quelques idées de livres que si ils existaient, ils pourraient trop m'intéresser. Je rigole, hein, mais en fait, j'y réfléchis vraiment. Alors, la jeune fille morte. Une jeune fille souffrant de moqueries se donne la mort, puis elle revient hanter les filles qui l'ont maltraitée et elle se venge d'elles une à une. Un livre d'épouvante de suspense, vraiment j'adore. Ou alors, on pourrait imaginer le club des populaires. Un groupe d'amis fondent un club de filles bien dans leur peau et aident les moches à s'en sortir à travers des aventures variées. Action, conseil et humour. Ou alors, journal intime d'une fille amoureuse. Un journal qui ne cache rien des pensées de l'auteur autour du sujet de l'amour. Témoignage, réalité, rêverie. Bon, maintenant vous pouvez écrire à la télé si vous voulez éditer un de ces livres. Merci.
Et on peut retrouver l'adaptation en dessin animé des Cahiers d'Esther sur MyCanal. C'est gratuit. Si on regarde une petite publicité avant, j'ai pensé en écoutant la voix de l'actrice qui joue Esther au livre Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Donc on peut le conseiller aux filles de 10 ans. Ce qu'on entend là, c'est la formation de l'esprit critique. On rappelle qu'Esther, c'est l'histoire vraie de chaque âge d'Esther. Donc on peut penser qu'elle a vraiment dit ça. Olivier Houdet, c'est ça aussi qui est intéressant dans la lecture, même quand on l'aime pas, c'est la formation d'un esprit critique, et peut-être même avant d'un esprit critique, d'une pensée sur un objet. Une pensée libre.
Le cerveau est doté d'un lobe, le cortex préfrontal à l'avant, qui est le siège de cet esprit critique, mais il faut l'éveiller. Et je dirais qu'il y a, on a parlé d'émotions tout à l'heure très artistiques, esthétiques. Il y a des émotions intellectuelles qui sont d'un autre ordre, et j'en citerai trois, le doute, la curiosité, le regret. Et c'est vrai qu'il faut éveiller durant l'enfance, et en particulier chez les ados, ces trois émotions-là. Sinon, on pourrait s'enfermer. Les réseaux sociaux que vous évoquiez tout à l'heure peuvent aussi enfermer dans un communautarisme, dans des groupes ou des sous-groupes où l'on pense tous de la même façon. Et à ce moment-là, le doute n'existe plus, la curiosité s'éteint et le regret disparaît totalement. Donc il faut utiliser cette culture mobile que sont les réseaux sociaux, mais aussi pour penser contre soi-même, la thèse que vous m'accordiez tout à l'heure, et penser contre soi-même seul, mais contre soi-même en groupe, c'est-à-dire être curieux de penser ou de faire autrement, douter de ce que l'on fait ou de ce que l'on pense en groupe, et regretter éventuellement ses actions, ses jugements, notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux.
Mais ça signifie qu'il faut des moments pour en parler, et je dois dire que je suis étonnée de la manière dont on y revient souvent dans cette émission et sur des sujets assez variés. La valeur de la circulation de la parole, particulièrement en groupe, pour les enfants et les adolescents, c'est-à-dire que cet esprit critique, voilà, peut se former, il ne prend vraiment son envol que quand on peut se confronter, échanger. Est-ce que ces espaces existent? Est-ce qu'ils existent suffisamment à l'école, Olivier Houdet?
L'école doit normalement le créer, ces espaces. Alors tout dépend de la pédagogie qu'on applique à l'école. S'il s'agit d'une pédagogie classique, verticale, un prof seul face à la classe avec le programme et le tableau, alors je caricature un peu, mais à ce moment-là, il n'y a pas de place pour la discussion, pour le jeu de rôle, comme on le ferait au théâtre ou dans des débats. Donc il faut à tout moment, et moi je plaide pour une pédagogie du regret, il faut regretter ce qu'on a fait ou ce qu'on aurait pu faire, il faut douter, il faut être curieux. Et ce ne sont pas ces émotions, elles ne sont pas dans le programme scolaire, mais c'est ça. Ces émotions-là qui forgent le citoyen de demain dans le monde du numérique, dans le monde précisément du trop d'informations, de la mise en cause de la science, de la vérité, parfois même de la réalité. Donc il faut éveiller ce doute, cette curiosité et ce regret pour une pensée plus solide. Et la pensée plus solide, c'est celle qui est capable de se critiquer elle-même tout en se construisant.
Mais le doute, ça demande du temps. Est-ce qu'on a du temps aujourd'hui?
Oui, eh ben, je peux vous dire qu'avec les enfants, moi je fais des expérimentations dans mon laboratoire du CNRS à la Sorbonne et dans les écoles avec les enfants, eh bien nous utilisons ce qu'on utilise à l'hôpital pour la douleur, par exemple une échelle de douleur sur cinq ou six points, cinq ou six traits, bien vous faites compléter un enfant qui a dit quelque chose, donné une affirmation à un adolescent, vous lui dites, est-ce que tu es certain de ce que tu dis, est-ce que tu sais pas trop, est-ce que tu doutes beaucoup, même échelle pour la curiosité, est-ce que tu serais curieux de savoir comment un autre analyse la situation que tu viens d'écrire, ou est-ce que tu regrettes ce que tu dis. Et sur une petite échelle à six points, l'enfant ou l'ado coche un trait, et de façon très amusante, vous pouvez mesurer, bien, c'est quand même très important, dans le cerveau, le doute, le regret, la curiosité, et en rire même entre soi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la métacognition, réfléchir à son propre fonctionnement, sa propre intelligence. Et avec les petits jeux d'échelle, non pas de douleur, mais de doute, de regret, de curiosité que j'évoquais, vous voyez comment très simplement, avec du papier crayon, on peut éveiller ces émotions qui finalement sont assez subtiles.
Mais on entend à quel point vous suscitez toujours cet intérêt chez les enfants, cet intérêt de connaître le fonctionnement, si ce n'est de son cerveau, de son fonctionnement intellectuel, et ça c'est très intéressant. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans votre fonctionnement, Yatsatou, si vous me permettez, et aussi dans celui d'Esther, je ne sais pas si je suis la seule à le penser, à mon avis non. Moi j'ai tendance évidemment à vous comparer en tant qu'enfant, en tant qu'ado avec Esther. Elle parle énormément, vous parler beaucoup moins, enfin c'est ce qu'il me semble en lisant l'arabe du futur, et on voit que quand Esther met toute sa vie en mots, vous avez trouvé d'autres voies, et là on part un peu du thème de l'émission, de la culture qui nous sauve, mais est-ce que cette parole elle vous a manqué quand vous étiez ado, le fait de pouvoir dire?
Je parlais assez peu, en fait. Je parlais assez peu avec ma mère, avec ma grand-mère. Je parlais assez peu avec les autres, notamment dans la cour de récréation, parce que j'avais pas tellement de personnes avec qui discuter. Et donc, je remplaçais ça un petit peu par le dessin, etc., par un dialogue un petit peu abstrait avec moi-même. Mais c'est vrai que dans le cas d'Esther, c'est ce qui a aussi déclenché ce projet avec elle, quand je l'ai revue et qu'elle avait 9 ans, etc., c'est qu'elle était incroyablement volubile. Et souvent, les adolescents que je peux croiser, ou les jeunes, ils sont un petit peu comme moi, je pouvais l'être. C'est-à-dire, ils bougonnent dans un coin, où ils parlent pas trop de leur quotidien, ils ricanent, ils regardent un petit peu Mais la vraie Esther, c'était une radio incroyable. Elle me parlait très clairement des rapports des garçons et des filles entre eux, de ce que faisaient les garçons aux filles, de quel classement il pouvait y avoir, comment elle classait les garçons, ceux qui lui plaisaient, ceux qui lui plaisaient pas. Et c'était comme en effet quelque chose dont j'étais à la fois friand en tant que adulte et individu, parce que j'avais envie de voir comment fonctionnaient les enfants comment ça pouvait fonctionner à notre époque à travers cet exemple-là. Et puis aussi, peut-être, en effet, comme vous dites, c'était peut-être des choses que je n'avais pas forcément vécues et que j'avais envie d'observer aujourd'hui pour voir si la façon dont je les avais ressenties, à défaut de les avoir exprimées, était valide ou pas.
Mais vous partagez avec elle un bon sens de l'observation. Pour revenir à l'art, vous l'avez dit, vous venez d'un milieu plutôt modeste. Comment arriver à faire partager l'idée que la présence de l'art dans sa vie et de la culture, mais la culture, ça peut être évidemment des tas de choses, je crois qu'on l'a bien expliqué, c'est valable pour tout le monde, tout le temps, que ce n'est pas du tout un luxe, que c'est même le contraire de cela, Riyad Satouf.
Ah ouais, alors ça c'est vrai que c'est très compliqué, parce que moi je crois que j'ai eu quand même la chance, moi j'ai eu plusieurs chances, c'est que j'étais dans un milieu en effet culturellement complètement, très, très, très faible quoi, mais il est vrai que ma grand-mère bretonne et ma mère aussi me considéraient quand même comme un génie, alors que j'étais vraiment pas génial, donc j'avoue que ça m'a quand même aidé, parce que comme je parlais pas à grand monde, le fait de m'entendre répéter toute la journée que mes dessins étaient bien meilleurs que ceux de Picasso, que j'étais de la trempe des grands réalisateurs comme Orson Welles et compagnie, en fait au bout d'un moment je me suis mis un peu à y croire, je me suis dit mais oui, mais finalement il faut que je trouve un moyen de me réaliser moi-même, en effet je suis meilleur qu'Hergé, je suis meilleur que tous ces mecs-là, mais c'était une sorte de, voilà, et ça je crois que ça a été une grande chance d'être valorisé en fait dans mon... Après, Souvent, je rencontre des enfants qui sont très très bons en dessin, qui font des histoires, qui des bandes dessinées, etc. Quand on croit très fort en ce qu'on veut faire, je pense qu'on peut y arriver un peu presque seul, en fait, même contre les autres. Parce que je pense souvent, je me dis, si ma mère et ma grand-mère ne m'avaient pas soutenu, j'aurais quand même continué à faire des bandes dessinées, parce que c'était vraiment quelque chose qui me transportait quand même beaucoup trop pour que j'abandonne ça.
Alors, je crois qu'on devra faire une émission sur les prophéties autoréalisatrices, ou en tout cas la promesse éducative. Juste un mot là-dessus, Olivier Houdet, est-ce qu'on sait si les scientifiques ont prouvé que ça marchait ? Moi, il me semble que ça marche assez bien de dire à ces enfants qu'ils ont de grandes capacités, sans comparer Riyad Sattouf à Picasso comme sa mère, que ça fonctionne bien pour les encourager.
Oui, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi, et c'est absolument déterminant pour faire monter, je dirais, le cerveau de chacun à son plus haut niveau. D'abord le regard d'une mère ou d'un père aimant, c'est essentiel, mais le mot-clé, c'est la confiance en soi, et Riyad m'a fait beaucoup rire ce soir.
Et ça aussi, c'est important pour la vie et pour l'éducation aussi, dans le regard qu'on porte sur les œuvres. On va continuer de parler d'éducation artistique avec Gilles Boudinet. Et je vous salue tous les deux et je voulais vous passer pour vous, Riyad Sattouf, un petit extrait d'une chanson qui a marqué notre jeunesse.
Être et savoir, Louise Touret.
Nirvana, Smells Like Teen Spirit, pour rendre hommage au t-shirt d'adolescent de Riyad Sattouf qu'on vient d'entendre dans l'émission. On parle ce soir de la manière dont l'art et l'éducation culturelle nous sauvent de bien des périls. Et maintenant, je vous propose d'écouter Gilles Boudinet. C'est un enregistrement de ce matin. Il est professeur, Gilles Boudinet, des universités en sciences de l'éducation à Lyon 2. Il est co-auteur avec Corinne Sanchez-Iborra d'Expérience esthétique et savoir artistique. C'est chez L'Harmattan. Et auteur d'Un art de l'enfance, Lyotard et l'éducation, publié chez Hermann l'année dernière. Alors, il y a des centaines, des milliers de formes d'expression artistique. Mais il y a une chose qui les lie. Ils nous mettent en mouvement, quand nous les fréquentons.
Les arts, les œuvres, ce sont des langages. Ce ne sont pas des objets inertes, ce sont des langages qui nous relient, nous rassemblent, même si on n'aime pas nécessairement toutes les formes de ces langages. Mais si on va un petit peu plus loin, les langages des arts ne fonctionnent pas nécessairement sur le mode de la langue verbale. Ou du moins, les langages des arts retrouveraient plutôt ce qui est de l'ordre de la poésie ou du roman par rapport à la langue verbale informative. Les langages des arts, en fait, je crois qu'ils fonctionnent toujours par des processus, qui sont des processus d'analogie, et non de logique verbale, des processus oniriques. On peut tout à fait penser au premier texte de Freud et de Breuer, hein, on se rappelle, sur l'interprétation du rêve, des processus qui sont ceux de l'évocation. Telle émotion m'évoque telle image, ou telle autre émotion qui m'évoque, et ainsi de suite. Bref, par rapport à la logique verbale, ceci est, on aura compris tout le génie de Magritte. Hein. L'art nous montre quelque chose qui n'est pas cette chose-là. Et ça nous transporte, ça nous fait toujours aller dans un ailleurs. Bref, on pourrait peut-être dire que les arts fonctionnent sans arrêt par une mise en déplacement. Moi, j'aurais envie d'évoquer une parole de Jacques Derrida qui nous disait qu'il aimait beaucoup la Grèce parce qu'on voyait des gros camions de déménagement avec marqué « transport métaphoros ». C'est-à-dire que c'est ça. Hein. On est vraiment dans cet ordre du transport. Dans son essai sur l'origine de l'œuvre d'art, Heidegger nous dit, voilà, l'œuvre d'art, elle nous transporte, elle nous montre des objets, elle nous montre des choses du quotidien. Mais en même temps, elle nous transporte ailleurs que là où nous avons l'habitude d'être. Nous voyons les choses différemment, autrement, transportées sous le filtre de l'art. Et là, je crois que c'est quelque chose qui est central dans probablement énormément de formes et de pratiques artistiques. C'est-à-dire que nous sommes bien dans un univers symbolique, de langage, mais c'est un univers qui ne fonctionne pas comme le signe verbal, qui fonctionne plutôt dans cet ordre symbolique de la métaphore du transport. Et c'est précisément souvent par ce biais que l'art peut permettre de reconstruire finalement une parole apprenante. C'est-à-dire que quand une parole n'arrive plus logiquement à dire sur les choses, quand elle n'arrive plus à saisir des éléments, quand elle est incapable parfois d'accéder à une réflexion, eh bien, l'art, qui fonctionne autrement que le signe verbal, permet de sortir de l'univers du signe verbal et de le reconstruire en extériorité.
C'est aussi le principe de l'art-thérapie à laquelle vous vous intéressez ?
Oui, complètement. C'est-à-dire que là, on n'a jamais été aussi proche entre sur cet axe-là. Hein. Il y a bien sûr différents registres d'intervention et de protocoles pour l'art-thérapie, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui me semble tout à fait certain, c'est l'action que peut avoir l'art sur le registre langagier. C'est-à-dire que finalement, l'art permet de réparer le langage verbal quand celui-ci est en faillite, est en panne, quand celui-ci perd du sens. Tout simplement par un effet de mise en extériorité, ce sont des vieux principes qui avaient été avancés, je pense à Václavic, une logique de la communication. Tout système déficient ne peut s'en tirer qu'à condition de sortir de son propre système et de trouver un système à la fois proche et un peu différent, comme le fonctionnement de l'art par rapport au fonctionnement du verbal.
Ça prend beaucoup de sens en ce moment où des enquêtes sur la santé psychologique des Français nous disent qu'on ne va pas bien. Et aussi du côté des enfants et des adolescents. Je pense à un dossier publié par le journal Le Monde la semaine dernière sur les services de pédopsychiatrie et les pédopsychologues qui disent que voilà les enfants sont plus nombreux à aller moins bien, à demander de l'aide et à être en situation de fragilité.
Oui. Et on pourrait réagir à ceci, je dirais, à deux niveaux. Il y a peut-être le niveau de l'urgence actuelle, le lien entre confinement et déprime et mal-être individuel. Bon, il est là. Hein, et je crois qu'il y a quelque chose qui se passe là, Je pense vraiment à notre situation sanitaire, cette situation de confinement. Et ça me rappelle ce qu'Hannah Arendt avait, dans son travail sur les totalitarismes, avait identifié en isolant la question de la solitude et la question de la désolation. Et c'est vrai que, et pourtant, les deux termes ont bien la même étymologie. Hein. La solitude, finalement, c'est aussi ce dont a besoin l'artiste, ce dont a besoin l'écrivain. Ça peut être un espace protégé où, précisément, on va se retirer du monde et puis on va rendre la solitude, on va en faire un moment de création, un moment de réflexion. C'est aussi le propre de l'art qui est là, qui permet cet isolement. C'est l'art qui à la fois isole et relie avec l'universel humain. Et le problème est quand la solitude devient désolation. C'est là où il y a crise, où il y a déprime. Et là, je crois que malheureusement, la situation actuelle, elle s'est vraiment prêtée à ça. Or, je dirais que l'art permet précisément de résister dans un état de solitude forcée, mais permet de résister à la désolation. Et on voit très bien que en quoi, malgré la catastrophe auprès des structures culturelles générées par les événements sanitaires, mais on voit très bien en quoi, spontanément, beaucoup de personnes ont retrouvé par l'écoute de musique, par la lecture, ou simplement, je pense aux spectacles, aux concerts spontanés qui se sont déclenchés dans des cours d'immeubles, en quoi là, d'un seul coup, l'art est venu comme résistance, et comme résistance permettant d'éviter la désolation. C'est ça, et donc, dans cette résistance, c'est là où aussi où se redonne une question qui est très très importante, qui est le sens de l'appartenance. Le sens de l'appartenance à une communauté humaine.
On parle de liens, il s'agit pas seulement de liens humains, mais de liens entre les objets même de la culture. Il y a des cultures juvéniles, ces cultures, je ne pense pas qu'on ait forcément intérêt à les scolariser, parce que ça ne fonctionne pas tout simplement forcément avec les élèves, mais il est intéressant évidemment de faire le lien entre différentes sources, ressources, centres d'intérêt ou culture un peu obligatoire portée par l'éducation. Enfin, est-ce que c'est intéressant d'ailleurs à votre sens?
Oui, c'est même fondamental. Il y a une question de définition, de notion large, qu'est-ce que la culture, etc. Mais la réponse, c'est précisément, vous venez de le dire, c'est cette question du lien, cette question de la reliance. C'est la faculté simplement à pouvoir s'ouvrir sur d'autres formes, d'autres époques, d'autres manifestations, d'autres pratiques artistiques. C'est cette faculté, je dirais, d'une universalisation de la sensibilité humaine qui se joue. Alors maintenant, c'est assez intéressant cette question quand elle est reliée à l'institution scolaire. Il est souvent dit dans les vieux concifs pédagogiques, c'est très simple, avec des jeunes, je schématise à peine, il suffit de partir des référents culturels des élèves et ensuite faire une démarche pour diffusionniste, comme on le dit, passer par exemple du rap au parler chanté au Pierrot Lunaire de Schoenberg et ainsi de suite. Bon, ça c'est très bien. Le seul problème, c'est que, précisément, encore faut-il, si on veut faire de l'ouverture, du lien, amener les élèves à relier des choses, tout en se méfiant de la posture, et vous l'avez tout à fait souligné, qui consisterait à scolariser la culture des jeunes pour que l'école enseigne la culture des jeunes aux jeunes, ce qui serait tout à fait absurde, mais il y a quelque chose qui est à concevoir dans justement ce travail de lien et d'ouverture culturelle. On ne peut faire du lien, des passages, s'ouvrir d'un genre à un autre, je sais pas, du hard rock au blues, du blues à Gershwin, de Gershwin à etc., etc. Mais on ne peut faire ce travail aussi de lien que lorsque l'on a une pensée, c'est-à-dire une langue verbale qui va permettre de faire ce lien. C'est-à-dire lorsqu'on est capable simplement de poser par les mots les choses, Enfin là, j'ai écouté tel style, et lorsque, toujours par les mots, on va pouvoir ensuite relier ce que l'on a éprouvé, ce que l'on a dit, avec d'autres genres culturels. Et là, c'est bien une question de relation au verbal qui se joue, cette question de maîtriser un mot capable de se mettre au-dessus d'une expérience vécue dans un contexte particulier pour gagner vers une généralisation applicable à d'autres contextes. Et ce dont on se rend compte, c'est que la faculté verbale qui permet comme ça de poser les choses, de les généraliser, de faire des synthèses, d'objectiver et donc de faire des liens, on se rend compte que cette faculté verbale, c'était le travail que j'avais pu faire il y a assez longtemps maintenant sur des pratiques de rock, puis sur des pratiques de tag et de graph. La capacité d'ouvrir est une capacité langagière, et cette capacité langagière, elle est toujours très très marquée socialement. Si je le dis autrement, on se rend compte que souvent, les élèves qui viennent d'environnement défavorisé ne s'autorisent pas à être dans un rapport au verbal capable de se mettre en emprise sur les choses, de les structurer et de faire des liens. Et c'est là où quand même il y a une réponse, une action possible. Donc faire des liens, oui, mais encore faut-il que l'élève ait la capacité verbale de faire des liens. Et en éducation artistique, il y a quand même un phénomène qui se passe, c'est que précisément parce que les arts sont une parole métaphorique qui ne fonctionne pas comme le signe linguistique habituel qui permet de restructurer le verbal quand il n'arrive plus à dénommer les choses, à objectiver les choses, et bien précisément l'espace langagier de l'art est un espace qui est capable de restituer la parole dans sa fonction d'une aptitude à faire des liens et de la synthèse.
On vit dans une société qui a la passion de l'évaluation et de la note, et je ne parle absolument pas que de l'école. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'évaluer quand on est face à des œuvres, quand on parle de culture, quand on parle aussi de ce que ça doit produire en nous pour notre pensée, notre capacité à nous émanciper?
En principe, pour faire une évaluation, on détermine a priori une valeur, et ensuite on met en place un dispositif de quantification pour voir ce qu'il en est de cette valeur qui a été déterminée. Là, c'est très différent. La valeur, elle n'est pas a priori, elle est plutôt a posteriori. On voit très bien que dans une espèce de gestion totalement aveugle, on demande aux institutions culturelles, éducatives, thérapeutique, de multiplier dans une espèce de course incroyable, de multiplier les procédures d'évaluation, comme si ces procédures d'évaluation allaient pouvoir redéfinir a posteriori ce qu'elles supposaient a priori et qui n'existe plus. Il y a quelque chose qui est là, une espèce de boucle étrange, complètement folle dans cette évaluation. Alors maintenant, par rapport à l'école, on notera que souvent les collègues, et là je pense beaucoup aux collègues professeurs des écoles, sont très démunis vis-à-vis des arts, parce qu'on va demander aux collègues d'évaluer. Et la question, comment peut-on évaluer une discipline comme celle des arts? Que faut-il évaluer? Bon, la connaissance culturelle qui est tout à fait fondamentale, qui a composé telle symphonie. Bon, d'accord, classer dans une histoire des arts, des œuvres selon leur époque. Bon, d'accord, mais au-delà, dans le rapport avec l'œuvre d'art, dans le rapport avec une pratique artistique, que peut-on évaluer?
Alors, que faudrait-il faire?
On pourrait peut-être imaginer que, précisément, la rencontre avec une pratique ou des œuvres d'art va générer autre chose qu'une réponse absolue, prise dans un sens unique et intransgressable. Parce que la rencontre avec les œuvres d'art, et là nous retrouvons ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire cette question de la métaphore, cette question du transport, la rencontre avec une œuvre d'art, elle génère toujours des questions. Des questions mais qui sont multiples, des interrogations, une certaine hétérogénéité. Et c'est cette hétérogénéité qui est tout à fait intéressante parce que c'est un lieu fort
de questionnement. Un lieu, je pense à Deleuze en disant ça, bien sûr, hein, où on va tirer des lignes de fuite. Un lieu aux réponses multiples. Bref, sorte de rhizome, comme ça. Et si on pouvait imaginer maintenant que l'art soit un lieu privilégié, pas du tout pour avoir un savoir des réponses, qui a composé telle symphonie, mais plutôt un savoir des questions. C'est-à-dire cette faculté, mais qui avait été décrite étonnamment depuis toujours, mais comment ne pas penser par exemple aux Lumières, et après bien sûr, c'est une faculté qu'a l'art à nous mettre dans un questionnement constant. C'était Adorno qui disait « les œuvres d'art sont une énigme agaçante ». C'est-à-dire que l'énigme, à l'inverse du mystère, le mystère, on sait qu'il n'y a pas de réponse, on s'y résout. Tandis que l'énigme, c'est quelque chose qui nous engage à chercher la réponse et à chercher les réponses en nous reposant des questions. Mais Adorno précisait, énigme, oui, mais une énigme agaçante, parce que à chaque fois, complétait Adorno, tu veux l'absolu, disent les œuvres d'art, tu l'auras, mais il te manquera toujours la clé. Voilà, bref, c'est bien cette quête de l'esprit critique qui est là, dont parlait déjà Kant à propos du sublime. C'est-à-dire que finalement, il y a toujours un effet d'émerveillement, à un moment donné, c'est ce fameux transport qui nous mène ailleurs, qui nous surprend, qui nous sidère, certes parfois, mais cette sidération amène simplement, nous conduit à nous poser des questions. Et je crois que c'est peut-être là où il y a toute une piste pour répondre à cette question de l'évaluation, c'est-à-dire imaginer que l'évaluation dans les œuvres d'art ne soit plus calquée sur un impossible modèle d'un savoir des réponses, mais que ce soit la mise en œuvre vraiment d'un savoir des questions. Et on peut peut-être aller plus loin. Notre monde contemporain serait dans une bascule, une crise, où justement les vieilles valeurs issues des Lumières, qui étaient pourtant si formidables, mais les valeurs transmises lors de l'époque dite moderne, comme l'émancipation de l'esprit critique, etc., elles sont quand même très affectées de nos jours par un changement total du monde, par cette crise. Et dans ce changement, eh bien précisément, l'art serait un moyen de répondre, un moyen de résister, c'est-à-dire un moyen d'imaginer de nouveau, de réintroduire de nouveau quelque chose de complètement fondamental, qui serait cette capacité de questionnement critique.
L'émerveillement nous émancipe ?
Oui, savoir encore s'étonner. Voilà. Et je crois que l'art a cette capacité à pouvoir reproduire ce sentiment partageable de lien social, de sens anthropologique et de bienfait individuel qui est ce moment où on va toujours s'étonner pour penser plus loin dans l'inconnu.
Encore un grand merci à mes invités de ce soir, Gilles Boudinet, qu'on vient d'entendre, qui a publié « Un art de l'enfance, le tard et l'éducation » chez Hermann, Olivier Houdet, « Apprendre à résister », c'est édité aux éditions Le Pommier. Olivier Houdet a également écrit « L'école du cerveau », c'est chez Mardagar, Yad Satouf pour « L'arabe du futur » chez Alary. Édition, merci à Avril Ventura avec qui j'ai préparé cette émission réalisée par Charlotte Roux. Anthony Thomasson était à la prise de son ce soir. Ce numéro d'Être et Savoir et tous les précédents sont à podcaster et à écouter où et quand vous voulez sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous y trouvez également toutes nos émissions sur l'éducation artistique.